Alors, le week-end dernier, comme vous savez, beaucoup d'entre nous ont passé quelques jours dans les Alpes pour le camp de l'Église. Et parmi les activités que nous avons faites, il y avait de l'escalade et de la Via Ferrata. Et sans rentrer dans tout le côté technique de ces sports, je dirais tout simplement que le but, c'est de gravir une falaise assez raide, soit pour arriver à un sommet particulier, soit pour profiter de la vue, soit tout simplement pour pouvoir dire « voilà, j'ai réussi ». Mais quel que soit le but, ces activités exigent une certaine précision concernant là où on met les mains et les pieds, n'est-ce pas? On est toujours à la recherche de prises solides, capables de soutenir notre poids. Alors les débutants ont besoin des prises plus grosses, plus proches les unes des autres. Les gens avec un peu plus d'expérience peuvent s'adapter plus facilement à des conditions moins favorables. Mais dans tous les cas, s'il n'y a pas de prise, on ne peut pas gravir la falaise. Imaginez que vous essayez d'escalader un mur sans prise et complètement plat et lisse. Il y a peu de chances que vous fassiez beaucoup de progrès dans de telles conditions, n'est-ce pas? L'accès au sommet est très difficile quand il n'y a pas de prise de pied ou de main. Et d'une manière similaire, on pourrait dire que l'accès du diable dans la vie des chrétiens est difficile quand il n'y a pas de bonne prise, n'est-ce pas? Dans quelques instants, on va lire Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 32. Et dans un des versets centraux de ce texte, Paul exhorte les chrétiens d'Éphèse à ne pas donner accès au diable. Autrement dit, ne donnez pas l'occasion au diable de prendre pied dans votre vie. Par votre comportement, n'aidez pas le diable à détruire votre vie. Ne fournissez pas au diable l'équipement nécessaire pour s'installer dans votre vie. C'est ça l'idée. Ne lui donnez pas de baudrier, de cordes, etc. Ne donnez pas accès au diable. Donc on va lire Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 32. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie et ainsi que toute méchanceté soient ôtées du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Avant de continuer, je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est inspirée, c'est inutile, utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour redresser, pour éduquer dans la justice. Et pour transformer la vie de tes enfants. Et donc, instruis-nous, Seigneur, par ta parole aujourd'hui, et aide-nous dans la mise en pratique de ce texte. Au nom de Jésus, Amen.
Amen.
C'est utile, d'accord? On est clair? Comment faire disparaître des prises? Comment faire disparaître des prises? Comment bloquer l'accès au diable? Éphésiens 4 nous donne une liste d'exhortations très pratiques en réponse à ce qu'il a déjà dit à propos de l'Église, le corps de Christ, d'accord, et de la transformation de l'esprit qui fait que nous avons une vie nouvelle en Christ. Alors, ces exhortations reflètent l'inquiétude de Paul pour le peuple de Dieu et pour leur unité dans la foi. Cette liste d'exhortations peut être divisée en trois catégories dans ce texte. Ce qui se rapporte à notre parole, ce qui se rapporte à notre attitude et ce qui se rapporte à nos œuvres. J'ai trois points, donc, qui commencent avec le verset 25. Au verset 25, Paul exige tout de suite que les destinataires de sa lettre évitent le mensonge. Ils évitent le mensonge. Et cette idée est répétée encore au verset 29. Un verset qui dit que les croyants doivent parler d'une manière qui édifie l'Église. Ce qui préoccupe Paul ici, ce sont les mots qui sortent de notre bouche. L'idée principale, c'est que le mensonge donne accès au diable dans la vie des croyants. Mais pourquoi le mensonge? Pourquoi le mensonge et non pas un autre péché peut-être plus grave? Pourquoi commencer par le mensonge et non pas par l'immoralité sexuelle, par exemple, ou par l'idolâtrie ou par quelque chose d'autre? Il y a deux raisons, je pense, pour lesquelles Paul se concentre sur le mensonge dans ce texte. Premièrement, la vérité, qui est opposée au mensonge, est une idée très, très importante dans l'Écriture. Et cette vérité est une caractéristique importante de Dieu. On voit dans Nombre chapitre 23 que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Les psaumes nous disent que les lois de Dieu sont véridiques. Dieu nous dit encore en Ésaïe chapitre 45 que ce n'est pas en cachette que je parle. On voit dans Jean chapitre 1 que Jésus est venu parmi nous plein de grâce et de vérité. Jésus a dit plus tard dans Jean chapitre 14 « Je suis la vérité ». Et déjà dans Éphésiens chapitre 4, Paul a exhorté l'Église par ces mots. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en Christ. Vous voyez, le mensonge n'a rien à voir avec Dieu et avec son peuple saint. Mais il y a une deuxième raison pour laquelle Paul met l'accent sur le mensonge ici, et en général sur la manière dont on parle. Paul cite ici Zacharie chapitre 8, en disant que chacun parle avec vérité à son prochain. Paul montre que son enseignement est conforme à l'enseignement de l'Ancien Testament, mais il montre aussi les parallèles entre la vision messianique de Zacharie chapitre 8 et la vision pour l'Église fondée sur le Messie en Éphésiens chapitre 4. Dans Zacharie 8, par exemple, Dieu règne sur Jérusalem, la ville de la vérité. Il exhorte son peuple à parler avec la vérité. Dans Éphésiens chapitre 4, Jésus règne sur son Église. Il exhorte son peuple à parler avec vérité les uns aux autres. Donc vous voyez le lien là entre ces deux textes. Les exhortations des versets 25 à 29, 25 et 29, nous disent d'imiter les bonnes paroles de Dieu. Au verset 25, il y a un contraste entre le mensonge et la vérité. Au verset 29, un contraste entre la parole malsaine et la bonne parole. Le texte nous exhorte à être attachés à la bonne parole. Les mensonges ont des conséquences néfastes parce qu'ils blessent les gens, ils brisent des relations et ils provoquent la méfiance dans l'Église. Vous connaissez peut-être l'histoire de l'institutrice à New York, c'est une vraie histoire, qui en 2012 a inventé la mort de sa fille dans le but de prolonger ses vacances. Okay? Elle a appelé son école, où elle était institutrice, pour dire que sa fille était décédée pendant leur voyage et qu'elle avait besoin d'une semaine de plus pour organiser les funérailles. D'accord? Ensuite, elle a fabriqué un faux acte de décès qu'elle a envoyé à son employeur pour justifier son absence. Quelques mensonges plus tard, sa tromperie a finalement été découverte. Elle a fini par être démise de son travail et par être envoyé au tribunal pour être jugé pour la falsification de documents. Alors, pour nous, cette histoire est peut-être un peu drôle. Quelle idiote, cette femme, bien sûr, mais imaginez les conséquences de ce genre de choses dans l'Église, des mensonges. Imaginez les conséquences de ce genre de choses parmi les frères, par exemple. Imaginez le mensonge dans l'Église locale. Ce n'est pas du bien. Ne donnez pas accès au diable par ce qui sort de votre bouche. C'est ça l'idée dans ce texte. Autrement dit, ne donnez pas l'occasion au diable de provoquer par vos paroles le moindre amertume ou la moindre méfiance parmi les chrétiens. Il exploite toute possibilité de faire du mal à l'Église. Mais en plus, il faut bien comprendre que le problème, ce n'est pas juste les mensonges qui sortent de notre bouche, mais les mensonges du monde qui nous conduisent au péché aussi. Le texte nous donne un avertissement par rapport aux vaines paroles et à la pensée obscurcie des païens. On a étudié ça il y a quelques semaines. Il y a donc là un avertissement par rapport aux tromperies dont nous sommes coupables vis-à-vis des autres, de nous-mêmes et de Dieu. Ce texte nous avertit contre les tromperies du monde. Notre monde est saturé de mensonges, n'est-ce pas? Des mensonges sur Dieu, sur l'homme, sur la valeur de la vie, sur la sexualité, sur la morale. En tant que chrétien, on doit répondre avec la vérité pour que le diable ne prenne pas pied dans notre vie. Mais ça nous amène à une deuxième exhortation. Ne vous mettez pas en colère. Gardez une bonne attitude. Ne donnez pas accès au diable par votre manque de maîtrise de soi. Ces réflexions sur la colère sont intéressantes parce que la colère n'est pas toujours quelque chose d'évident ou de visible, n'est-ce pas? C'est plutôt quelque chose qu'on peut cacher dans notre fort intérieur. Et c'est quelque chose qui peut aboutir facilement à d'autres péchés. Mais pour moi, la question qui est tout de suite soulevée dans ce texte, c'est la suivante. Pourquoi mentionner la colère comme quelque chose de possible et même d'acceptable au verset 26, mais ensuite dire clairement au verset 31 que la colère n'a aucune place dans l'Église ou dans la vie d'un croyant? Au verset 31, la colère est mise dans la même famille que l'amertume, par exemple, la calomnie, la méchanceté. Mais au verset 26, on a l'impression que la colère s'est permis. Comment explique ça? C'est comme si Paul disait, la colère est un péché, mais vous pouvez vous mettre en colère, sauf si vous ne péchez pas. Vous voyez, c'est pas très logique. Imaginez que quelqu'un vous dise, allez-y, nagez dans la piscine, mais ne touchez pas l'eau. C'est un peu ça ce que Paul est en train de dire. Alors, que penser de la colère selon ces versets? Deux choses concernant la colère. Premièrement, la colère n'est pas mentionnée comme quelque chose de bien, ni dans l'un, ni dans l'autre de ces versets. Au verset 31, la colère est interdite. Au verset 26, elle est permise, mais avec des précisions et des limites, comme ne péchez pas, par exemple, ou ne laissez pas le soleil se coucher sur votre irritation. Autrement dit, ne restez pas longtemps dans la colère. Ne donnez pas accès au diable. Ne lui permettez pas d'influencer votre vie par votre colère pathologique. Si quelque chose vous met en colère, résolvez ce problème rapidement. La colère nous met dans une position fragile et vulnérable. Mais deuxièmement, le contexte semble suggérer qu'il existe deux choses, deux genres en fait de colère qui sont mentionnés dans ces versets. On parle des fois de la colère sainte, n'est-ce pas? La colère sainte ou la colère juste, c'est-à-dire une colère contre le mal, comme la colère de Dieu contre le péché, contre la rébellion, contre l'injustice. Et si on suit l'exemple des prophètes et des apôtres, on a raison d'être en colère des fois, n'est-ce pas? On peut et on doit détester des choses que Dieu déteste. Mais ce genre de colère doit être réglé ou même régulé par la connaissance de l'Évangile et de la grâce de Dieu. Moi, je passe pas mal de temps, personnellement, à crier, à jurer, à vitupérer contre la folie de notre société. Et d'accord, c'est bien de réagir à la folie de notre monde, n'est-ce pas? Mais la tentation pour moi, et j'imagine pour vous aussi, c'est d'être hypocrite. De penser que moi, je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu parce que je ne suis pas aussi pécheur que ces gens-là. Ce n'est pas le cas. Ce que Paul est en train de dire ici dans ce texte, c'est tout simplement que nous devons faire attention avec la colère. La colère qui blesse les gens, qui provoque des divisions dans l'Église, est inacceptable. Paul est en train de dire, allez-y, nagez s'il faut, mais ne vous noyez pas. Ne restez pas trop longtemps dans l'eau. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas au diable une prise dans votre vie. N'oubliez pas que Dieu nous a accordé à chacun de nous, les chrétiens, sa grâce. Pour que nous accordions cette grâce aux autres. Si nous passons maintenant au verset 28, nous voyons que la troisième exhortation de Paul concerne le vol. Encore une fois, c'est curieux que Paul mentionne le vol dans le contexte de l'unité et de l'édification de l'Église. Pourquoi donc exhorte-t-il l'Église d'Éphèse à ne plus dérober ? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a des commentaires qui disent qu'à Éphèse, au 1er siècle, les ouvriers saisonniers volaient de la nourriture pour leur famille pendant qu'ils n'avaient pas d'emploi. D'accord, c'est vraiment possible. Mais je pense qu'il y a d'autres raisons plus générales et pratiques derrière cette exhortation. Je pense que dans le contexte du reste de la Bible, bien sûr, le travail honnête est beaucoup mis en valeur. C'est beaucoup mis en valeur. Dès le début de Genèse, le travail est considéré comme quelque chose qui vient de Dieu et qui est mis en valeur par Dieu. Les proverbes nous exhortent à travailler. Et même l'apôtre Paul a fait un travail manuel pour subvenir à ses besoins selon 2 Corinthiens. Ici, Paul nous avertit contre la paresse. Il nous conseille d'éviter un style de vie qui donnerait accès au diable. Il nous avertit contre la tentation de rester toute la journée devant la télévision ou de glander devant l'ordinateur à regarder des trucs inutiles sur l'Internet. Paul nous avertit de ne pas devenir des Peter Pan qui veulent rester adolescents pour toujours dans un monde imaginaire sans responsabilité. Il est en train de dire qu'une vie inoccupée ouvre la porte à la tentation et au péché. Que ça ne contribue pas à l'édification de l'Église, vous voyez? Ça me fait penser à Proverbes chapitre 6, verset 6, qui invite la paresseuse à aller vers la fourmi et à considérer ses voies. Vous connaissez peut-être ce verset. Ça me fait penser à la fable de La Fontaine qui raconte l'histoire de la cigale et de la fourmi. La cigale a passé tout l'été à chanter. C'est-à-dire à se reposer, à manger, à boire, à se réjouir, sans remarquer que l'automne approchait, sans se rendre compte que la nourriture se faisait de plus en plus rare. Mais par contre, la fourmi, elle a été prévoyante. Elle a préparé sa maison pour l'hiver en travaillant dur pendant les mois d'été, à reculter sa nourriture. On ne doit pas vivre comme la cigale, qui gaspille les opportunités, qui dérobe Dieu du temps qu'il lui a donné par sa grâce. Notre travail ne nous profite pas juste à nous, mais il profite aussi aux autres, avec qui nous partageons le fruit de notre travail. Mais j'anticipe des objections. Je comprends ceux qui disent « d'accord, j'en ai », mais l'économie est en crise et je n'ai pas du boulot. Et c'est vrai, il y a des problèmes comme ça. Mais dans ce cas, on peut consacrer du temps à l'Église, n'est-ce pas? Aux besoins de la communauté ou à d'autres projets qui produisent quelque chose de bien. On peut passer du temps dans la parole de Dieu, par exemple, aussi, et partager ses connaissances avec les autres. Paul est en train de dire que le fait de travailler dur et d'être généreux, c'est quelque chose qui rend gloire à Dieu, qui nous aide à résister au diable. Il faut bien se dire qu'il est possible de nous appliquer ces exhortations de Paul à notre vie aujourd'hui grâce à celui qui nous a appelés, grâce à celui qui nous a sauvés, grâce à celui qui nous scelle et qui nous préserve dans la vie chrétienne. C'est pourquoi Paul insère cette phrase au verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. » Grâce à notre salut en Christ, en Jésus, le Saint-Esprit demeure en nous. Il nous aide à résister au diable. Mais les mêmes activités qui donnent accès au diable sont celles qui attristent l'Esprit. Et Paul nous exhorte donc à être remplis de l'Esprit pour faire disparaître de notre vie ces prises qui ont été mentionnées dans ce texte. À cause de l'ignorance, et en plus à cause de l'Internet des fois et des réseaux sociaux, il existe énormément de possibilités de répandre des mensonges et de croire des mensonges, n'est-ce pas? À cause de la stupidité des gens et des attaques dirigées contre les valeurs chrétiennes, on a la tentation de rester dans la colère au lieu de dire la vérité avec amour. À cause de l'économie en crise et des programmes d'aide sociale, on n'a pas toujours la motivation de travailler. Mais n'oubliez pas que votre vie appartient à Dieu et que vous êtes scellés par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Ne donnez pas donc accès au diable, mais donnez plutôt accès à Dieu dans votre vie. Je vous invite à la prière. Notre Seigneur, ces trois exhortations sont très simplement dites, mais pas toujours facile à appliquer à notre vie. Seigneur, nous savons que notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, qu'il cherche les gens à dévorer. Mais Seigneur, aide-nous à résister au diable. Aide-nous, par ta grâce, à permettre le Saint-Esprit de diriger notre vie. Que notre vie soit caractérisée par la vérité, par la patience, par la sobriété, et de maîtrise de soi pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.